France Info.
Bonjour à tous, bienvenue dans Les Informés, votre rendez-vous de décryptage de l'actualité sur France Info. Tous les matins jusqu'à 9h30, deux thèmes, deux débats qui font l'actualité, qui sont décryptés sur France Info Radio et France Info TV, canal 16 de la TNT. Bonjour Renaud Delis.
Bonjour Agathe.
Et ce matin, nous accueillons avec plaisir Myriam Ankawa, présentatrice du 18-20 les vendredis, samedi, dimanche sur France Info TV. Bonjour Myriam.
Bonjour à tous, bonjour Agathe.
Et Louis Osalter, journaliste politique au Figaro. Bonjour.
Bonjour. Oui.
Et on commence avec notre premier débat, Renaud. L'après Bayrou, le PS et Macron peuvent-ils vraiment faire un bout de chemin
ensemble ? Et oui, parce que l'après Bayrou semble déjà avoir commencé, même si le Premier ministre reçoit ce matin justement une délégation du Parti Socialiste, conduite par le Premier secrétaire Olivier Faure, qui a répété que la décision du groupe PS était irrévocable et que celui-ci ne voterait pas la confiance lundi prochain au Premier ministre. La chute de François Bayrou et de son gouvernement semble donc inéluctable. Dès lors, est-ce que la gauche, est-ce que les socialistes peuvent participer à ce qui se passera ensuite, donc au nouveau gouvernement? On sait qu'Emmanuel Macron, avant-hier, lors d'un déjeuner à l'Élysée, a incité les chefs des partis du bloc central à travailler avec les socialistes. Est-ce que le futur locataire de Matignon doit être de gauche, doit être un socialiste? La réponse, il y a quelques minutes sur ce plateau, de Raphaël Glucksmann, eurodéputé Place Publique et principal compagnon de route, en quelque sorte, du Parti Socialiste.
Moi, je veux une personnalité de gauche. On a eu deux gouvernements minoritaires de droite successifs. Ça a échoué. C'était un problème de politique, c'était un problème de méthode. On peut essayer autre chose. Un Premier ministre de gauche qui annonce d'emblée une méthode. Et la méthode, c'est celle du compromis. Quand vous n'avez pas de majorité, eh bien, vous ne pouvez plus gouverner de manière moi ou le chaos, comme le font les dirigeants français de manière traditionnelle.
Alors, un Premier ministre issu de la gauche, issu du Parti Socialiste ou de la gauche réformiste, est-ce que c'est possible? Avec quelle méthode? Celle exposée par Raphaël Glucksmann, par exemple? Et puis, pour quoi faire? Et avec qui, évidemment, quels pourraient être les contours du futur gouvernement appelé, semble-t-il, à remplacer celui de François Bayrou?
Est-ce qu'il est un peu seul à prêcher dans le désert, Raphaël Glucksmann, Myriam Ankawa?
Non, il prêche pas dans le désert, parce que, en fait, ça peut paraître paradoxal, mais l'échec de François Bayrou à négocier avec les socialistes ne remet pas du tout en cause la volonté du bloc central de trouver une voie de passage avec les socialistes. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du moment où le Rassemblement national demande la dissolution, voire une présidentielle anticipée, c'est vraiment la stratégie répétée, martelée sur tous les tons, ça bloque le jeu à l'Assemblée. Donc la seule voie de passage pour que la France ait un budget, c'est de réussir à avoir l'abstention, la non-censure des 66 députés socialistes. Donc en fait, Bayrou a échoué, mais les canaux du PS sont largement ouverts à l'Élysée. Il y a beaucoup de ministres qui vous disent, à commencer par Éric Lombard, les anciens socialistes, Astrid Panosian-Bouvet, Manuel Valls, il y a Marc Ferracci qui vous disent, on peut y arriver. Mais je ne crois pas du tout à l'entrée de ministres socialistes dans un gouvernement. Le débauchage, peut-être un ou deux ici ou là, mais ça n'a aucun intérêt pour les socialistes parce qu'il y a les municipales et donc tout ce qui les associerait à la Macronie serait complètement perdant pour eux. En revanche, c'est vraiment un accord de non-censure, exactement comme ça s'est passé pour le budget Bayrou à son arrivée, qui pourrait être négocié. La question, c'est est-ce qu'ils vont le faire maintenant? Et là, ça peut prendre énormément de temps et donc on n'est pas prêt d'avoir un nouveau Premier ministre. Ou est-ce qu'ils vont d'abord essayer de nommer un Premier ministre et ensuite négocier cet accord?
Louis Alter, vous croyez qu'on va repartir dans un schéma avec un Premier ministre du bloc central, un accord de non-censure? Les mêmes causes vont produire les mêmes effets, non?
Oui, je le crains. En tout cas, on va repartir dans quelque chose de très pénible, je crois, dont les Français sont lassés depuis un certain temps, qui est d'interminables consultations, négociations, schémas, accords d'appareils, de partis, d'hommes et de femmes politiques entre eux, et une incapacité à s'entendre pour la plupart des bancs de la Assemblée nationale. Et par ailleurs, l'éléphant au milieu de la pièce, c'est quand même le programme. Alors programme, c'est un bien grand mot. Évidemment, on ne va pas faire un programme pour la France à horizon 2-3 ans. Dans la situation actuelle, il faut juste un budget. Mais même le budget, c'est tout un programme. Est-ce que le Parti Socialiste pose des conditions qui sont celles inscrites dans le contre-budget qu'il a présenté la semaine dernière lors de son université d'été. Ça veut dire la taxe Zuckman, 2% sur les patrimoines les plus importants. Ça veut dire taxer les riches, comme le dit leur expression. Ça veut dire beaucoup moins d'économies que ce que prévoyait François Bayrou, et donc la remise en cause de la promesse de rétablir les finances publiques d'ici 2029, comme le prévoyait François Bayrou. Bref, ça, c'est vraiment l'éléphant au milieu de la pièce. C'est-à-dire qu'on peut parler d'Olivier Faure, de tel ministre qui discuterait avec tel autre ministre, mais il y a quand même des choses qui sont claires. C'est qu'Emmanuel Macron, tout faible politiquement qu'il soit, n'a jamais voulu une remise en cause de la politique économique qu'il a menée depuis 2017. Et puis n'oublions pas les Républicains, qui ont quand même 49 députés et qui ne veulent absolument pas de ce programme socialiste. La droite ne veut pas de ce programme de gauche et la gauche ne veut pas du programme de la droite. À partir de là, essayer d'embarquer tout le monde sur le même bateau, ça va être très très compliqué. Je ne suis pas certain qu'à la fin, il ne faille pas retourner aux
urnes. Et Olivier Faure dit « je vais être Premier ministre et je veux que des ministres de gauche ».
En tout cas, Olivier Faure fait des offres de service. Très clairement, il a dit qu'il était à la disposition du chef de l'État pour envisager une solution qu'après François Bayrou. Il y a l'éléphant que vient d'évoquer Louis Salter à l'instant. Effectivement, l'éléphant, c'est Emmanuel Macron. C'est qu'au fond de lui, on voit bien qu'Emmanuel Macron, et d'ailleurs Raphaël Glucksmann l'a pointé tout à l'heure sur ce plateau, en tout cas, jusqu'à présent, il n'a pas donné des signes qu'il serait prêt à voir remettre en cause un certain nombre d'éléments de son bilan et de sa politique préalable, et d'abord de la politique fiscale. Et c'est là-dessus qu'insistait Raphaël Glucksmann jusqu'à présent. Et c'est vrai que Emmanuel Macron, d'ailleurs, n'a pas manifesté vraiment une propension à envisager de nommer un Premier ministre issu de la gauche, issu de la gauche réformiste depuis la législative de 2020. Il ne faut pas oublier l'hippopotame aussi qui est au milieu de la pièce ou en marge de la pièce, c'est-à-dire c'est Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise qui a déjà annoncé, pas officiellement, qu'il censurait un éventuel Premier ministre socialiste, mais Jean-Luc Mélenchon est ivre de rage, il a tweeté que Olivier Faure ait fait des offres de service. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a rappelé qu'il n'avait pas demandé la permission en quelque sorte, mais a priori, le premier secrétaire du PS n'a pas ou n'a plus à demander la permission à LFI pour le faire. Donc, quelle serait l'attitude de LFI ? Est-ce qu'ils iraient jusqu'à censurer un gouvernement, etc., etc. C'est une hypothèse aussi. Et puis, dans la série Pachyderme, il ne faut pas oublier non plus Bruno Retailleau, puisque lors du fameux déjeuner d'avant-hier à l'Élysée, il semblerait que Bruno Retailleau, le président de LR, ait annoncé en tout cas que s'il y avait une coalition qui intègre les socialistes d'une façon ou d'une autre, ça, LR n'en serait pas. La droite ne pourrait pas en être. Et c'est là, on retombe évidemment sur la quadrature du cercle, qui est que prendre un bout de l'omelette à gauche fait perdre un autre gros bout de l'omelette à droite. C'est toute la difficulté.
Moi, je pense qu'Olivier Faure, il a envie que son nom circule. Il a envie, la dernière fois, il y avait Lucie Castet. Son nom n'est jamais apparu comme potentiel Premier ministre. C'est ça qu'il cherche. Il n'a pas du tout envie d'être Premier ministre. Il sait très bien, c'est un fin politique. Moment où il est à Matignon, de toute façon, la coalition disparaît avec la droite. Donc, il n'y a pas de majorité.
Mais Myriam, il y a aussi Dominique de Villepin qui disait hier sur TF1, c'est le moment de la gauche, il faut un Premier ministre de gauche. Louis Alter, c'est complètement absurde. Ça n'aura jamais lieu. Macron ne nommera jamais un Premier ministre de gauche.
Je ne voudrais jamais qu'un programme fiscal de gauche soit au pouvoir. Et j'ai oublié un autre éléphant dans la pièce qui est peut-être encore plus gros, c'est la réforme des retraites. Je rappelle que dans le projet du PS, encore une fois présenté la semaine dernière, il y a la remise en cause de la réforme des retraites. D'ailleurs, avec une année de suspension qui serait financée par la taxe Zuckman. Enfin, il y a une espèce de goubi-gouba budgétaire-financier qui est assez bancal. Je ne vois pas du tout Emmanuel Macron avaliser ou même ouvrir la porte à un tel programme. En fait, si on veut éviter la dissolution, la seule solution, c'est un budget à minima. C'est-à-dire, c'est évidemment pas faire les 44 milliards d'économies. Il faut en faire quand même parce que nous n'avons pas tellement le choix. Et je rappelle que une agence de notation rendra un verdict prochainement. Mais c'est que chacun, en fait, remise ses grandes ambitions programmatiques jusqu'à une élection présidentielle ou voire d'éventuelles élections législatives prochaines et aille autour de la table avec des exigences qui soient un petit peu réduites. Et je ne sais pas si Olivier Faure, il manie un peu la chèvre et le chou là-dessus, parce qu'un jour il dit qu'il faut un gouvernement avec que des gens de gauche, voire de la société civile, mais donc ce qui exclut en fait un compromis ou toute coalition. Et l'autre jour, il dit qu'il est disponible effectivement pour discuter avec Emmanuel Macron. Mais pour discuter, il faut avoir de la matière à discuter.
Et le cœur du sujet, évidemment, c'est ce qui plane au-dessus de tout ça, c'est les chances de 2027. Et on voit bien qu'en fait, c'est quand même l'obsession de la plupart de ces acteurs. C'est-à-dire que la situation, ça contraste quand même avec les enjeux de la période. La situation est gravissime sur le plan financier, on le sait, sur le plan géopolitique, on le voit tous les jours. Sur le plan politique, elle est calamiteuse, au moins depuis la dissolution génération, voire avant, en tout cas avec une vie parlementaire qui ne fonctionne plus, un climat du débat public qui vire de plus en plus souvent à l'hystérie, des manifestations de rue potentiellement violentes d'ailleurs, avec ce fameux mouvement Bloquons tout qui, une fois de plus, pointe à l'horizon. Et dans ce contexte-là, la plupart, la quasi-totalité des responsables publics, quelles que soient leurs étiquettes, songent d'abord à 2027 et donc ça gouverne leur choix ou leurs hésitations, y aller ou pas. Est-ce que ça serait bien d'aller à Matignon là maintenant, mais de prendre un tel risque, si j'échoue, je pourrais pas être potentiellement candidat, ou même simplement cité, d'ailleurs, comme le disait Myriam Okawa, puisque la politique maintenant, souvent, la première intention, enfin la première ambition de la plupart de nombreux responsables publics, on va dire, c'est déjà d'être testé dans les sondages. Être testé, c'est exister en quelque sorte politiquement pour certains. Et je trouve qu'au regard du contexte qu'on traverse, qui est quand même assez anxiogène et assez inquiétant, beaucoup de ces responsables politiques ont une vue quand même extrêmement réduite sur ces petites ambitions à très court terme, 2027, si tant est que l'élection présidentielle ait lieu en 2027. Et là, on retombe sur toute la difficulté pour Emmanuel Macron, c'était que plus que cette crise dure et plus elle semble insoluble, plus son pouvoir, son autorité s'affaiblissent et plus sa situation lui-même est en danger et donc la fin de son quinquennat aussi.
On entendait Gilles tout à l'heure sur France Info qui disait « Où sont les deux ?» De Gaulle, ils sont tous irresponsables.
Gilles, c'est un Français.
Exactement. Voilà.
Un Français. Il a peut-être plus raison que
le micro d'Agathe Mahué. Il y a plus de tous les responsables sont irresponsables. Myriam Okawa, il n'y a pas une figure aujourd'hui qui pourrait être un recours pour Matignon, qui pourrait rassembler.
Non, clairement. Moi, ce qui me frappe, c'est surtout qu'on n'a pas cette culture politique. Je ne sais pas comment on fait pour acquérir une culture politique. Combien d'années, combien de décennies
Je pense aussi que l'élection présidentielle ou suffrage universel joue pour ça.
Oui,
aussi,
bien sûr, ça vient tout obérer, ça vient tout perturber, ça pèse. Mais c'est vrai que, bien sûr, un Churchill, mais c'est le contexte qui fait des Churchill, c'est le contexte qui font des De Gaulle. C'est évident que les Français sont déçus. Ils ont l'Assemblée qui leur ressemble. Ces trois blocs existent dans les votes, dans les électorats. Mais à un moment donné, il faut se hisser et dire, il reste à peine 2 ans. Il faut qu'on trouve à minima un compromis, quels que soient d'ailleurs les partis politiques, et essayer d'avancer. Et je pense que ça, les Français peuvent le comprendre. Et c'est vrai que quand on regarde chez nos voisins européens, cette culture du compromis qui peut prendre des mois, on pense évidemment aux grandes coalitions en Allemagne, on pense à la proportionnelle. Si on fait la proportionnelle, il va bien falloir... Il n'y aura pas de majorité. Il n'y aura qu'un seul tour. Donc, il faudra bien s'entendre. Donc, c'est ça, la proportionnelle. C'est inciter. Alors, peut-être qu'un mode de scrutin peut changer une culture politique. Sans doute, ça va favoriser. Mais effectivement, on peut être un peu atterré face à ce personnel politique qui n'est pas à la hauteur. Parce que, de toute façon, il y aura l'élection présidentielle. Le retour aux urnes est programmé. Peut-être qu'il va être précipité. Mais il va avoir lieu, ce retour au peuple. Donc, peut-être attendons pour que le pays puisse avoir un budget.
Dans un instant, jusqu'où la France peut-elle aller face à Bruxelles? Mais tout de suite, il est 9h19 et c'est l'info en une minute avec Maureen Sugnard.
La Russie dit ce matin refuser de discuter d'une intervention étrangère en Ukraine. Déclaration alors que les alliés de Kiev, dont la France, ont affirmé être prêts à apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine une fois la paix signée. Certains pays sont prêts à envoyer des troupes au sol. Ces alliés se réunissent à Paris tout à l'heure. Au moins 15 morts et 18 blessés, dont une Française à Lisbonne, dans le déraillement d'un funiculaire dans la capitale portugaise. La société qui gère l'appareil assure que les protocoles de maintenance ont été respectés. François Bayrou termine ses consultations pour éviter une chute de son gouvernement lundi prochain. Les syndicats ont d'ores et déjà acté une journée de mobilisation le 18 septembre prochain. Des perturbations du côté de la SNCF sont à attendre. 3 syndicats majoritaires appellent à la grève. Et puis l'administration de Donald Trump va-t-elle pouvoir mettre en place ses droits de douane? Les taxes voulues pour les produits importés aux États-Unis. Le gouvernement saisit la Cour suprême des États-Unis puisque la justice américaine a déclaré illégaux ses droits de douane la semaine dernière.
France Info. Les informés, Renaud Dely, Agathe Lambret.
Et nos informés aujourd'hui, Myriam Okawa, présentatrice du 18-20 sur France Info, vendredi, samedi, dimanche, France Info Télé, et Louis Osalter, journaliste politique au Figaro. On passe à notre deuxième débat, la guerre Paris-Bruxelles. Jusqu'où la France peut-elle aller et comment calmer aussi la colère paysanne, Renaud?
À propos du Mercosur, cet accord commercial qui a été conclu avec 5 pays d'Amérique latine, entre l'Europe et 5 pays d'Amérique latine, dont le Brésil, la Commission européenne a donc approuvé hier cet accord, qui doit encore être ratifié par le Parlement européen, par le Conseil européen. La France, jusqu'ici, s'y est opposée, notamment parce que les agriculteurs s'opposent à l'ouverture aux importations venues d'Amérique latine, un certain nombre de produits agricoles. On sait qu'en retour, l'Europe, dont la France, pourrait davantage exporter des produits industriels, des machines, des automobiles, aussi des spiritueux d'ailleurs, vers l'Amérique latine. La France a fait intégrer, en tout cas, dans cet accord, un mécanisme de clause de sauvegarde, dans le cas où l'augmentation des importations, justement, en provenance du Mercosur menacerait de causer un préjudice au secteur agricole. Ce qui fait que la porte-parole du gouvernement s'est réjouie que l'Union européenne ait entendu la réserve française, mais les syndicats agricoles appellent déjà à se mobiliser contre cet accord et exhortent Emmanuel Macron à honorer sa parole de s'y opposer. C'est aussi le cas d'ailleurs de certains eurodéputés, et notamment des eurodéputés macronistes, qui annoncent vouloir rejeter cet accord au Parlement européen. Par exemple, Pascal Canfin, eurodéputé Renew, c'était sur France Inter hier.
Avec plusieurs députés de différents pays et de différents groupes politiques, de manière transpartisane, nous allons demander de saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Cet accord contient un mécanisme qui est particulièrement, à mes yeux, problématique, qui donne aux pays du Mercosur la possibilité de demander des compensations financières si nous prenons des normes, par exemple des normes environnementales ou des normes sanitaires sur les pesticides, qui réduisent les importations et les flux commerciaux en provenance du Brésil.
Alors, est-ce que la France peut encore s'opposer à cet accord et jusqu'où Emmanuel Macron peut envisager ou pas de se fâcher avec Bruxelles à propos du Mercosur? D'ailleurs, est-ce que cet accord est si défavorable que ça à l'économie européenne en général et l'économie française en particulier?
Alors, on commence, Louis, par déjà, est-ce que la France pourrait ne pas voter cet accord? Jusqu'où on peut aller dans le bras de fer avec Bruxelles?
Pour l'instant, le bras de fer est perdu. Ça, c'est évident. Et d'ailleurs, ça dénote peut-être la faiblesse d'Emmanuel Macron depuis la dissolution. Il a perdu les leviers nationaux, en tout cas en grande partie. Il se concentrait sur l'international et l'Europe. Force est de constater que ça n'est pas pour cette raison qu'il arrive à imposer les intérêts de la France en Europe, puisque son opposition au traité jusqu'ici était franche et claire. C'était non, non, non. Mais la Commission européenne et sa présidente Ursula von der Leyen tiennent tellement à cet accord qu'ils ont trouvé une technique pour le scinder en deux parties. Et si je simplifie, le volet commercial peut être adopté en se passant du vote de la France. C'est-à-dire que la France doit réunir plusieurs pays alliés, une minorité de blocage, pour s'y opposer. Et à ce stade, ça n'est pas le cas. L'Italie est en train de se rallier. Il n'y a que la Pologne, en fait, dans les grands pays, qui conserve une opposition ferme. Donc là, la France est perdante, c'est une évidence, et sous réserve des étapes d'adoption suivantes, notamment au Parlement européen. Donc c'est quand même un camouflet politique pour Emmanuel Macron. Sur le fond de l'accord, effectivement, cet accord, c'est pas du tout une catastrophe pour l'économie française, en réalité, parce que derrière le...
On a du mal à comprendre si c'est bon ou si c'est mauvais, en fait. On entend derrière un peu tout et son contraire.
Ce qu'on entend, le problème, c'est qu'il y a, dans l'économie, il y a évidemment des secteurs, il y a l'industrie et l'agriculture, et puis dans l'agriculture, il y a des agricultures. Donc là, on entend les filières qui, évidemment, sont en colère et c'est bien légitime. Écoutez ce que disent les représentants des vins et spiritueux, écoutez ce que disent les représentants des laitiers, sachant que les Sud-Américains aiment beaucoup nos yaourts, par exemple. Ils sont très contents de pouvoir trouver un marché dénué de droits de douane, à un moment même.
Les droits
Donald
de douane
Trump.
Fondent alors qu'ils étaient
Exactement.
Énormes.
Exactement, et n'oublions pas que la donne a changé depuis le moment, c'est-à-dire la fin des années 90, où on commençait à discuter de l'accord Mercosur. Je rappelle que Donald Trump impose des droits de douane sur la quasi-totalité de nos produits, y compris les vins, des produits phares pour la France. Donc, le principe de réalité fait qu'on a besoin de déboucher. Même raisonnement pour nos industries. Il est évidemment que pour l'automobile, la pharmacie, la chimie, l'aéronautique, cet accord est une bonne nouvelle. Après, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle, une très mauvaise nouvelle pour les volaillers, les bouchers, les betteraviers? Oui, effectivement, ils vont avoir une concurrence déloyale. Et malgré toutes les garanties que présente la Commission européenne, la réalité, c'est qu'on n'a pas vraiment les moyens de contrôler si les produits qui vont venir d'Amérique du Sud respectent vraiment nos normes. Autrement dit, on va effectivement importer des produits qui sont traités avec de la chimie dont on interdit l'usage à nos paysans ici. Ça, c'est une réalité.
Et cette question que les Français aussi peuvent se poser, est-ce que la colère paysanne va se réveiller dans un contexte déjà particulièrement tendu?
C'est le risque, en tout cas, avec ce mois de septembre, ces mouvements sociaux, cette crise sociale qui pourrait nourrir la crise politique. La position de la FNSEA va être très importante. Son patron était déjà au ministère de l'Agriculture hier soir. Il attend pour le moment, avant d'appeler à toute manifestation de colère dans le pays, d'avoir exactement le contenu de ces fameuses clauses de sauvegarde sur les fameuses filières qui seraient défavorisées d'un point de vue de la concurrence. Louis l'a très bien dit, il s'agit de la volaille, il s'agit du bœuf et il s'agit du sucre, les betteraviers. Il faut avoir beaucoup de pédagogie dans ce dossier, c'est très compliqué, comme tu l'as très bien expliqué, il y a des gagnants et il y a des perdants. Moi, il me semble que de toute façon, sur ce dossier-là, la France était déjà minoritaire, elle avait peu d'alliés. La donne a changé, elle a radicalement changé. Et donc, à partir du moment où on a une guerre commerciale féroce de Donald Trump sur l'ensemble des biens, hein, que ce soit l'acier, l'aluminium, les voitures, bien sûr, mais aussi nos produits agricoles, ce nouveau marché devient un débouché évidemment essentiel, sans compter la concurrence de la Chine, qui déjà est très présent en Amérique du Sud. Et donc, je ne vois pas comment, même avec des garanties, ce Mercosur pourrait être abandonné.
Et vous, Renaud Dely ?
Effectivement, je pense d'un mot, mais vous l'avez très bien dit tous les deux, Donald Trump qui a donné le coup de grâce, en quelque sorte, entre guillemets, à Emmanuel Macron sur ce sujet. C'est-à-dire que l'incapacité de la France à rassembler une minorité de blocage est liée au fait que le contexte a changé, que la guerre commerciale déclenchée par les États-Unis incite un peu plus les Européens à se rallier, à défendre le Mercosur, qui consiste effectivement à abaisser de façon radicale ou à supprimer totalement les droits de douane sur de très nombreuses exportations européennes.
Parce qu'il y a des filières qui en ont besoin aussi. Merci pour cette pédagogie. Merci Myriam Mankawa, présentatrice du 18-20 les vendredis, samedis, dimanches sur France Info TV. Merci Louis Osalter, journaliste politique au Figaro. Nous, Renaud Dely, on se retrouve demain.
À demain, Agathe.
Et vous retrouvez les informés comme tous les soirs à 20h avec Victor Matet.